Bonjour à ceux que j'ai pas vus, comment vous allez? Oui? Vous allez bien? Alors gloire à Dieu, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis content de vous voir et vous savez que c'est sincère. Amen, est-ce qu'on prie ensemble pour la parole de Dieu? Jésus, on ouvre ta parole, elle est la vérité. Et elle est une lumière sur nos sentiers. Et quand on voit le monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin d'allumer ta parole et de la mettre à nos pieds et de marcher dans ce monde ténébreux. Parce que la seule lumière qui peut éclairer ce monde, c'est ta parole. Et ta parole nous dit qu'un jour tu es venu, tu as vaincu le malin, tu as vaincu les puissances de ténèbres, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Seigneur, nous sommes ressuscités avec toi. C'est un peuple de vivants qui est là ce matin et nous voulons te célébrer pour ça. Merci pour la vie, merci pour le Saint-Esprit et merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que au son de ta parole, les aveugles voient, les sourds entendent, les stériles enfantent au nom de Jésus. Seigneur, merci de visiter celui ou celle qui a besoin de toi. Et je te prie, Seigneur, de m'accorder la faveur de ton onction pour annoncer ta parole. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Seigneur Jésus, c'est tout, tout, tout à cause de ta grâce, à cause de ton nom, Jésus. Sois béni, amen. Amen. Voilà, je regarde l'heure. Voilà. J'ai deux questions à poser ce matin. Et la première question que je vais poser sera la première partie du message. Et la deuxième question sera la deuxième partie du message. Il n'y en aura que deux, ça va. Je suis gentil, ce n'est pas un questionnaire. Et la première question. Bon, la deuxième, Jésus, là, il a répondu très clairement, mais il y a une question, la première, que c'est celle que Jésus a posée dans Matthieu, chapitre 16, où il va dire, Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous vous rendez compte? Il pose une question, et dans la question, il y a la réponse. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il y a une part de la réponse. Moi, le Fils de l'homme, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Et c'est une part de la réponse. Mais pour nous, qui est-il? Et ce matin, je pose la question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Je me souviens quand j'étais en Israël, je sais plus si je vous l'ai déjà raconté ou pas ici. Donc excusez-moi si je radote. Je vais sur ma 33e année, je suis fatigué. Non, mais j'avais 12-13 ans. Et j'étais dans la voiture et au tout début qu'on était en Israël, on ne savait pas trop si on pouvait dire qu'on était croyant, on ne connaissait pas encore les lois. Alors qu'en Israël, en fait, vous pouvez dire que vous êtes croyant en Jésus, il n'y a pas de souci. Mais on avait été dès les premiers jours persécutés. Alors au début, on restait un peu discret quant à notre foi en Jésus. Et il y avait un homme qui nous amenait à l'école, on faisait du covoiturage avec les voisins. Et les voisins, ils savaient qu'on était juifs, mais ils ne savaient pas forcément qu'on croyait en Jésus. Mais un jour, il a eu un doute qu'on croit en Jésus. Et lui, il avait la kippa, il avait les tzitzit, il était sous la loi à fond. Donc Jésus, ce n'était pas forcément son copain. Et il tourne autour du pot et il dit, tu sais, il y en a qui croient en plusieurs messies en Israël. Il y en a qui ont pensé que c'était lui. Il y en a qui ont pensé que c'était lui. Et il me dit, tu sais quoi? Il y a même des juifs qui pensent que Jésus, c'est le messie. Et il me dit, toi, est-ce que tu penses que c'est le messie? Et là, moi, je ne savais pas ce que je devais répondre. Alors j'ai fait une espèce de oui, non mélangé, j'ai pas donné une réponse claire et nette, mais ça insinuait plus non. Et alors que j'avais 12, 13 ans, il y a la parole de Dieu qui s'est infiltrée dans ma tête et dans mon cœur et qui m'a dit, souviens-toi de ce verset, ceux qui auront honte de mon nom sur terre, j'aurai honte de eux devant le Père. 12 ans, hein. Mais chez nous c'est important, c'est l'âge de la bar mitzvah, l'âge de la conscience, l'âge de l'âge adulte, 12 ans. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû lui dire, ouais, moi je crois en Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vous assure que suite à ce témoignage, quand on me demandait si je croyais en Jésus, j'avais plus honte de le dire. Je crois en Jésus. Mon père est un serviteur de Dieu et je crois à la Torah, oui, mais je crois à la Nouvelle Alliance aussi, parce que c'est le Messie d'Israël et c'est le Messie des nations. Et ce matin, je n'ai pas honte de dire que c'est le Messie. Donc, qui est Jésus? Alors ce matin, c'est vraiment très simple ce que je veux partager avec vous. C'est simple et basique. C'est un retour aux sources. Mais nous avons tellement besoin de revenir aux sources. Je le dis souvent, des fois, je regarde des prédications internet. Vous regardez la prédication, elle est super, mais vous n'avez jamais entendu Jésus, vous n'avez jamais entendu le mot péché, vous avez jamais entendu mort à soi-même. Non. Vous avez les cinq clés pour devenir un super leader spirituel. Les cinq clés pour être un leader de louange. Les cinq clés pour entrer dans sa glorieuse destinée. Par contre, mourir à soi-même, il n'y a plus. Jésus mort en croix, il n'y a plus. Donc, qui est Jésus pour nous? Est-ce que Jésus veut de nous que nous soyons des leaders spirituels qui rentrent dans leur destinée? Ou est-ce que Jésus veut que nous mourions à nous-mêmes? Et mon frère l'a très bien dit il y a 3 minutes, il y a un prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Donc, qui est Jésus? Alors oui, on est dans une église évangélique pentecôtiste où il y a une croix et on croit tous au nom de Jésus, mais qui est Jésus pour nous? Et nous vivons parfois, je crois que le nom de Jésus nous transcende plus des fois. Et je crois que le Saint-Esprit a besoin, je crois que nous avons besoin, oui, que le Saint-Esprit vienne nous rappeler le nom de Jésus. Normalement, quand on entend le nom de Jésus, ça doit encore nous faire des frissons. Normalement, quand on entend le nom de Yeshua, Jésus de Nazareth, ça doit nous transcender encore et encore. Normalement, la prédication de la croix doit encore nous venir nous chercher loin dans nos entrailles, doit nous mettre le feu en nous, doit faire bouillir notre cœur. Là, quand j'entends le nom de Jésus, le Saint-Esprit me rappelle, rappelle-toi de qui est Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est le verset qu'on m'a écrit le jour de mon mariage dans ma Bible. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et alors que j'ai traversé des périodes difficiles, professionnelles, etc., j'avais des périodes sombres et noires dans ma vie, un jour, juste cette phrase m'a sauvé, m'a transcendé, m'a fait bouillir. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ce matin, souvenons-nous de Jésus. Je suis là ce matin pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus fait trembler celui qui t'assaille, celui qui veut te vaincre, celui qui te met des pensées noires dans ta tête. On s'habitue à écouter des prédications. On s'habitue à écouter le nom de Jésus. Et quelque part, on le théorise, on l'intellectualise, mais on ne l'assimile plus. Son nom, c'est Yeshua, le Dieu qui sauve. Yeshua, le nom qui sauve, Dieu qui sauve. Et pour trouver alors qui est Jésus, c'est intéressant d'aller voir que Jésus en fait a toujours été, il est et il sera. Et c'est important de le dire parce qu'il y a plus en plus de doctrines bizarres qui disent que Jésus est comme un super-héros venu parce que Dieu était surpassé par le péché. Mais Jésus a toujours été. Il a été prévu, il a toujours été la solution éternelle à notre péché, à notre mort. Il a toujours été. Et on peut direct aller au premier mot de la parole de Dieu, au commencement. Au commencement de la parole. Quand il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, en hébreu, il est écrit Bereshit. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et ha'aretz. Bereshit, le premier mot, Bereshit, il contient le mot bar, le fils. C'est-à-dire que le fils est déjà présent au commencement. Il est accompagné de la lettre de Dieu, le tétragramme de Dieu en hébreu, le Dieu éternel, et ainsi que Yashit, qui veut dire, qui indique une notion d'appartenance à soi. Ça veut dire que le Fils appartient et est dans la plénitude de Dieu déjà. Le Dieu éternel. Et juste après le mot Fils, il y a Roche, Bereshit. On décortique le mot Roche, qui veut dire la tête, le premier, le commencement, qui nous ramène à ce verset qu'on connaît si bien. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce matin, Jésus est en tout le premier. Selon Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, il est en tout le premier. Jésus, ce matin, est à la tête de notre culte. Jésus est à la tête de nos louanges. Jésus est le centre de notre adoration. Jésus est le centre de nos chants. C'est le nom de Jésus qui m'intéresse. Au-dessus d'une dénomination évangélique pentecôtiste, ADD, ADADA, qui vous voulez, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne dans nos cœurs. Amen. C'est le nom de Jésus qui doit nous transcender. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. En hébreu, le aleph et le tav. Le aleph, le commencement, le tav, on l'avait vu ensemble, le tav qui représente la croix, qui représente l'accomplissement. Quand vous prenez la première lettre de l'hébreu, vous prenez la dernière lettre de l'hébreu, c'est ce qu'il va dire Jésus. Je suis la première lettre de l'hébreu et la dernière lettre. Et il va dire, je suis aussi la vérité. Et en fait, quand vous prenez la première lettre de l'hébreu, la dernière lettre, et vous mettez celle du centre, et bien la lettre du centre veut dire le centre. Et les trois lettres additionnées veulent dire vérité. Un jour, je vous ferai le dessin, si vous voulez. Mais en trois lettres, Jésus dit qu'il est le commencement, qu'il est la fin, qu'il est la vérité. Il est tout. Il est tout. Il est au centre de la parole de Dieu. Il est au commencement, il est à la fin. D'ailleurs, ça finit par Amen, parce qu'il est l'Amen, il est la vérité. Il est le commencement, la fin, le centre de la parole de Dieu. Il ne fait pas partie juste du Nouveau Testament. Il ne fait pas partie juste d'une nouvelle alliance. Il était là. Il était là. Et il a toujours été présent. Et on peut lire ensemble Proverbe 8, chapitre 8, pardon, verset 24, si vous voulez bien, où on voit la présence de Jésus déjà. Je crois que... Oui, super, il y est. On vous l'avait à l'écran. Je vais prendre ma Bible, ça fait bien aussi. C'est cool. Je suis enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, afin que les montagnes fussent affermies, afin que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de poussière, de la poussière du monde. Vous vous rendez compte, la Bible a découvert l'atome avant les grands scientifiques. Gloire à Dieu. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Tiens, la Bible savait que la terre était ronde. Nous, on a mis 18 siècles. La Bible savait déjà. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, le globe encore une fois. Il y en a qui pensaient que la terre était plate. Eh bien non. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Jésus est là. Jésus était là. Jésus était là dès le commencement, ce qui veut dire que pour nous, il était là, il était et il sera, quels que soient les travers, quels que soient les soucis que tu traverses, Jésus est là, était et il sera là toujours. Et il sera là toujours. Et on voit qu'il y a une omniprésence de la personne de Jésus-Christ dans la première alliance, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On avait vu ensemble aussi, quand on avait parlé de Caïn et Abel, que le signe que va mettre Dieu sur Caïn est la vieille lettre hébreu, le Tav, comme on a évoqué tout à l'heure, qui est une croix. Ça veut dire que la croix était déjà prévue, la croix était déjà là. La croix n'est pas un instrument qui a été utilisé au dernier moment. La croix était déjà inscrite dans l'ADN de Jésus, parce qu'il avait déjà prévu, avant les fondations du monde, il avait prévu notre chute et il avait prévu la solution à notre chute. Et c'est important de réaliser ce matin que, quelles que soient les choses que nous allons traverser, l'Église va peut-être passer par le feu, mais l'Église est glorieuse parce que c'est le peuple de la croix. Et à la croix, tout a été vaincu, tout est déjà remporté d'avance en fait. Et le diable veut nous impressionner avec les lois qui sont en train de sortir dans notre pays et qui sont quand même impressionnantes, hein, faut un peu s'inquiéter. Mais il veut nous impressionner avec la persécution, il veut nous inquiéter avec la censure, mais nous ne serons jamais inquiétés parce que le jour où Jésus est mort à la croix, l'Église, qui est un concept spirituel est né et l'Église est un concept spirituel qui représente le corps du Christ. Et depuis quand le corps du Christ spirituellement peut être atteint par des hommes? Depuis quand? Jamais. L'Église ne s'éteindra jamais. Nous n'avons rien à craindre, mon frère, ma soeur, préparons-nous à la persécution. Oui, mais nous n'avons rien à craindre parce que Jésus a tout vaincu, il a tout accompli et nous devons être pleinement conscients de ces jours qui arrivent. C'était un salut prévu de toute éternité. Et pour aller un peu dans ce que Jésus pourquoi Jésus va choquer certains juifs religieux quand il va leur parler d'Abraham. Vous avez dans Jean chapitre 8, 56, il va les choquer. Pourquoi? Voilà ce qu'il va dire. Il dit: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il lui dit: tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous vous rendez compte? Je trouve que ce n'est pas trop mal traduit en français. Pourquoi? Parce qu'on a écrit avant qu'Abraham fût, passé simple, je suis présent. Et ça illustre bien parce qu'en fait, là, il va se présenter exactement comme Dieu va se présenter au peuple d'Israël et à Moïse dans Exode. Quand ils vont le dire, mais quand Moïse va dire, mais Seigneur, moi, je dois leur dire quoi ? Je dois te présenter à quel nom ? Il va leur dire, dis-leur, je suis celui qui suis. Et en fait, c'est un mot en hébreu qui est intraduisible parce que c'est un mot en hébreu qui transcende le spatio-temporel, c'est-à-dire qu'il y ait passé, présent, futur. C'est un verbe, un mot en fait qui est passé, présent, futur et qui n'est pas limité dans le temps. Et c'est de cette manière-là que Jésus va se présenter en leur disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il est en train de leur exprimer littéralement sa divinité. Même s'il est pleinement homme, il est pleinement divin. Et c'est pour ça que quand il va dire ça, ils vont vouloir le lapider parce qu'il se présente comme Dieu. Mais il est Dieu. Jésus est Dieu. C'est un miracle qu'un juif dise ça dans une église évangélique. Jésus est Dieu. Alléluia. C'est pas un super-héros, c'est pas juste un homme. Il y a des religions qui le présentent juste comme le fils de l'homme, mais que les anges seraient presque à son piédestal, mais que lui, il est juste au-dessus des anges. Non, 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 il est Dieu. Il fait partie de la Trinité et en lui habite toute la plénitude divine. C'est important de nous rappeler à qui nous avons affaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il y en a, ils pensent que Allah est grand. Moi, je dis que Jésus, il est encore plus grand. Pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire. Je tremblerai devant aucun autre Dieu parce que mon Dieu, Jésus-Christ, a tout vaincu, il a tout remporté. Il a terrassé le serpent. Il l'a vaincu, l'a ridiculisé. Et il va rappeler que c'est quand il va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », qu'Abraham, il a tressailli de joie à l'idée de le voir. Mais c'est vrai parce qu'Abraham l'a vu. Abraham l'a vu. Même quand vous allez dans... Alors oui, il y a sacrifice d'Isaac, mais même quand vous allez dans Genèse 18, aux chaînes de Mamré, il est écrit qu'il y a trois hommes qui vont se présenter. Abraham, il va se prosterner devant un des trois. Pourquoi un juif se prosternerait devant un homme ? Ce n'est pas un homme. Et il va lui dire Adonai. Il ne va jamais appeler Adonai, mon Dieu, un homme. Il a vu Jésus. Ce qu'on appelle une christophanie ou qu'importe, mais il a vu Jésus. Parce que Jésus était là lorsqu'Abraham a été appelé. Jésus était déjà là. S'il était là au commencement, il était là avant Abraham, hein, ça y a pas de souci. Et le problème, c'est qu'il fallait que les juifs religieux soient convaincus par la puissance du Saint-Esprit que Jésus était Dieu. Et ce matin, nous avons besoin d'être rafraîchis par le Saint-Esprit pour nous rappeler qui est Jésus. Jésus, ce n'est pas juste un copain qu'on met au placard et qu'on vient voir le dimanche en disant « J'ai besoin de telle ou telle bénédiction et la semaine allait comme si de rien n'était. » Jésus, ce n'est pas mon pote. Même si on a une intimité, moi j'appelle Dieu papa. On a une intimité avec lui, Jésus, c'est notre frère, oui. Mais ce n'est pas juste un copain là. Ce n'est pas juste un marchand de bénédiction à qui on vient taper le dimanche matin en disant « Seigneur, moi j'ai besoin. » Ce n'est pas juste ça, Jésus. Il est Dieu. Il règne, il est assis à la droite du Père. Des fois, on manque de respect à notre Dieu. Des fois, je le dis à mes jeunes, quand il faut aller un peu sur le terrain pour servir et tout, vous savez, c'est une génération qui a besoin d'être encouragée. Hein. Même quand ils sont engagés, qu'ils sont nés de nouveau, des fois, il faut les encourager. Je vous rendez compte que si j'étais dans une mosquée et que je dis à la mosquée, bon, maintenant, il faut faire une douha, une bonne action pour l'islam, etc. Je dis, venez, on va laver la mosquée. Je vais avoir 10, 20 personnes. Par contre, quand mes jeunes, je leur dis, venez, on va faire le ménage à l'église, il faut que j'envoie 4 messages, 5 messages, que j'appelle, que je prie, que j'intercède, que je jeûne, et j'arrive à avoir des jeunes. Et on est au service de Jésus-Christ qui est vivant. Je ne suis pas là à faire l'apologie d'autres religions, pas du tout. Je parle du zèle. Il y a comme un refroidissement là autour de nous quand au nom de Jésus. Il y a comme une frilosité dans le milieu chrétien. Comme si on avait honte de Jésus, comme si on avait honte de ce nom. Toute la journée, on nous rabâche la laïcité, l'athéisme, etc. Et ça nous martèle, et ça nous martèle, et ça nous martèle. Mais on peut me rabâcher tout ce qu'on veut. Jésus-Christ, lui, chez lui, il est Dieu. Donc chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En fait, il est le même et il sera toujours le même. Ça ne change pas. Notre foi ne doit pas être ébranlée, quelles que soient les circonstances, quels que soient les bouleversements politiques, sociétaux, ce que vous voulez. Jésus ne change pas et il demeure le même. Et notre zèle doit demeurer le même. Parce que dans les temps que que nous allons vivre, nous ne pouvons pas être tièdes. Nous ne pouvons pas être tièdes. C'est soit froid, soit bouillant, mais soyons bouillants. Je prie que cette église soit enflammée par la puissance du Saint-Esprit, comme on l'a vu la semaine dernière avec Pasteur Frédéric, que nous soyons bouillants, bouillants pour le nom de Jésus, que nous n'ayons pas honte du nom de Jésus. Romains 16, je n'ai pas honte de l'évangile pour quiconque croit. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance. L'évangile est une puissance et notre pays a besoin de cette puissance. Il n'a pas besoin que nous ayons honte du nom de Jésus. Il a besoin que nous affirmions notre nom de Jésus avec fierté, quel qu'en soit le coup. On se moque de nous, mais on se moque de moi au travail puisque je crois en Jésus. Des fois, on blasphème ouvertement. Je ne peux même pas vous dire ce qu'on dit sur Jésus sur mon lieu de travail, des fois, tellement c'est grave. J'ai oublié de me taire, Seigneur, pardonne-moi. Des fois, vous avez envie d'imposer les mains. Il ne faut pas le faire. Pas avec précipitation, en tout cas. Pour les bénir, oui. Mais je parlais de l'autre imposition des mains qui n'est pas bonne. Tu as raison, Frédéric. Il rectifie la doctrine. Donc voilà, pour terminer sur la présence de Jésus dans l'Ancien Testament, dans Daniel, alors je le cite juste comme ça pour ceux qui prennent des notes, mais Daniel chapitre 3, versets 25 à 26, quand le roi là, il dit, ouais, il y a quatre personnes là, mais il y en a un, il a l'aspect des fils de Dieu. Comment ça se fait qu'un roi païen, il reconnaisse un homme qui a une tête de Dieu ? C'est parce qu'il reconnaît Jésus. C'est parce qu'il reconnaît Jésus et un jour tout le monde reconnaîtra Jésus. Un jour tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et cette image de ceux qui sont dans la fournaise, c'est peut-être l'image de ceux de l'Église qui dans les temps de la fin vont être dans la fournaise, vont être dans le feu, mais elle n'a rien à craindre parce que dans cette fournaise, on ne craint pas les flammes, même si elle est réactivée, qu'on rajoute du bois, on ne craint pas les flammes parce que Jésus est dans la fournaise. La fournaise commence à s'allumer et on ne se rend pas compte parce que le feu, il est tout doux, mais la fournaise, elle va commencer à s'embraser. Et nous avons plutôt raison d'aller vers Jésus et de lui dire, Jésus, viens avec nous dans la fournaise, parce que si on y va tout seul, on va très vite cramer, parce que ceux qui n'étaient pas avec Dieu, là, rien qu'à la sortie de la fournaise, rien qu'avec le retour de flamme, ils sont morts. Nous avons besoin de Jésus dans la fournaise. Et je crois que cette fournaise, c'est l'image de l'Église qui va vivre des temps de feu, mais que Jésus va se révéler. Et même les nations reconnaîtront le visage de celui qui est un homme et qui a le visage du Fils de Dieu. Voilà pour moi ce que ça image, Daniel. Voilà pour parler de la présence de Jésus dans la première alliance. Je préfère parler comme ça, je n'aime pas dire Ancien Testament. Ancien Testament, ça veut dire que c'est mort. Mais là, il n'y a pas de seconde alliance, il n'y a pas de première. Voilà. Alors la deuxième question, c'est si on sait qu'il est le Aleph, le Tav, c'est-à-dire qu'il est l'accomplissement de la première alliance. Jésus est la parole incarnée. Il a accompli. D'accord ? Ma question que j'aimerais vous poser, je vais vous la poser en hébreu, « Mashlom Chem ». Si je dis bonjour à Frédéric et que je lui dis comment il va en hébreu, comment je lui demande, je vais lui dire « Mashlomcha ». Dans « Mashlomcha », il y a le mot « Shalom ». Ce qui veut dire que je lui demande littéralement « Comment en es-tu avec ta paix ?» En hébreu, on se demande comme ça. « Comment va ta paix ?» Voilà comment on demande comment vous allez. En France, on dit « Ça va ?»« Ça va. » Nous, on dit « Comment vas-tu avec ta paix ?» Ça va ou ça va pas? Est-ce que vous êtes heureux quand vos factures elles sont payées et qu'à la fin du mois, il reste encore un petit quelque chose sur le compte? Ça devient de plus en plus rare de nos jours pour les familles moyennes françaises. Quand tu as payé tes factures en général, tu pries pour que la paye arrive très vite, que les jours accélèrent. Mais est-ce qu'on n'est pas content quand les factures elles sont payées? Quand on n'a plus de dettes à payer? On est content. On est content. Donc, ma question, c'est, es-tu en paix ? Et nous avons besoin, ce matin, de nous rafraîchir la mémoire sur la valeur du prix que Dieu a payé. Vous savez, j'aime beaucoup l'humour de Dieu. Pourquoi ? Je m'exprime. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Vous savez, les Juifs, ils ont été beaucoup persécutés dans le monde et ils ont été persécutés jusqu'au siècle dernier. Avec à cause de clichés, notamment que c'est eux qui gardaient l'argent, qu'ils étaient radins, etc. Et aujourd'hui, on est encore empreint de ces clichés. Et les gens pensent, ah, mais toi, et des fois on me dit, ah, toi, t'es vraiment un juif. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pense que les juifs sont radins, mais que la dette payée pour toute l'humanité, c'est un juif qui l'a payée quand même. Gloire à Dieu pour son humour. Merci Seigneur, parce que Jésus était pleinement homme, il était pleinement homme, il était pleinement juif du coup. Et c'est un juif qui va monter sur une croix, payer la dette pour toutes les nations. Et ça, c'est l'humour de Dieu. Et je crois qu'on a là le juif le plus généreux de l'histoire de l'humanité. Parce que grâce à lui, grâce à son prix payé, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Donc, j'aimerais rappeler quelque chose aussi qu'on a beaucoup théorisé, beaucoup entendu, et qu'au final, est-ce qu'on l'assimile ? Je ne sais pas, mais il faudrait vraiment qu'on l'assimile et que le Saint-Esprit nous aide à le retrouver, à être rafraîchi. Quand Jésus il est monté sur la croix, d'abord, ce qui a été dit en grec, c'est « tetelestai ». Tout est accompli, tetelestai, parce que le Nouveau Testament l'a retrouvé écrit en grec. Et tetelestai, c'est le temps qui est utilisé en grec et ce qu'on appelle un présent parfait. C'est une action accomplie dans le temps et qui n'a pas de fin. Donc, les conséquences de cette action touchent autant le passé, le présent et le futur. Parce que selon Hébreux, chapitre 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternelle. On sous-estime encore aujourd'hui le sacrifice de Jésus. On sous-estime encore, on a l'impression que notre péché est tellement grand, que notre chute est tellement grande, que ce qui a pris le dessus sur nous est tellement grand, que le sacrifice de Jésus, ben, il est bien, mais pas assez fort pour. Sauf que n'importe quelle de ces situations, mon frère, ma sœur, a été vaincue à la croix. Ta situation financière est vaincue à la croix, ton chômage est vaincu à la croix, ta maladie est vaincue à la croix, ta dépression est vaincue à la croix. Ton estime de soi qui est basse, elle est vaincue à la croix. Ta maladie, tes maux de dos sont vaincus à la croix. Ton célibat est vaincu à la croix. Les problèmes de ta famille, les problèmes de couple, la famille qui se déchire est vaincue à la croix. Et le problème, c'est qu'on n'ose même pas rentrer dans ce tout accompli. On est comme dans Luc chapitre 15 où il y a les deux frères et il y a le frère qui croit que... Alors on appelle ça le fils prodigue, mais c'est plutôt le père prodige. C'est lui le héros de l'histoire. Parce que on a celui qui est dans la maison et qui croit qu'il est toujours là et il croit que finalement, aller dans des réunions et être dans la présence de Dieu de manière assidue, mais au final très charnelle, ça va satisfaire le cœur de son père. Et on a celui qui est parti aller manger ses biens avec les cochons et les prostituées, mais lui, il revient. Et lui, il ne cherche pas à comprendre parce que son père, il a tué le veau gras, il a payé pour qu'il revienne dans la maison et pour faire la fête. Il ne cherche pas à calculer, il rentre dans le tout accompli. Et nous, on se sous-estime, on ne rentre plus dans le tout accompli. Et on vit avec des péchés cachés, normal, dans la maison de Dieu. On vit avec des frustrations, on vit avec des culpabilités parce que nous refusons de mesurer la puissance du tout accompli. Ça ne veut pas dire qu'on va pécher délibérément. Je ne prêche pas ce qu'on appelle la surgrâce. Il y en a qui disent, t'inquiète, quoi que tu fasses, t'es sauvé, de toute façon, vas-y, c'est pas grave. Non, ça, c'est la folie, ça. Jamais j'ai dit ça. D'accord ? Mais, tetelestai. Et tetelestai peut se traduire par mission accomplie. Mais Jésus ne parlait pas grec. Donc qu'est-ce qu'il a dit en hébreu ou en araméen quand il est monté sur la croix ? Le mot employé, c'est nishlam ou mushlam ou shelem. En fait, c'est la même racine. Donc ce qui veut dire, en fait, payer dans son intégralité. Ce mot était inscrit sur le document légal d'une reconnaissance de dette après le dernier paiement de remboursement. Voilà ce qu'il a dit Jésus quand il est monté. Donc, quand Jésus l'a inscrit, qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus, il a inscrit ce mot sur notre reconnaissance de dette. Notre reconnaissance de dette, c'était la mort. Ouais. Et nous, ben, on n'a plus rien à payer. Pourquoi ? Parce que Jésus, il a payé une fois pour toutes. Et le mot qu'il a employé, Mushlam Shalem, a donné le mot Shalom, qui nous donne la paix. Ça a donné le mot l'Eshalem, payé. Donc la même racine, c'est Shalom, l'Eshalem, payé, la paix. Mushlam, complet, parfait. Le sacrifice de Jésus a été payé pour moi de manière parfaite, complète et accomplie dans toute l'éternité, en fait. Il est juste parfait. C'est parfait ce qu'il a fait. et il me donne la paix. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Alors là, aujourd'hui, encore, tout va à peu près bien. Mais quand ça va commencer, quand la récession va arriver, quand les temps difficiles vont arriver, si la famine doit revenir, je crois qu'on va encore plus mesurer ce que ça veut dire la paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. On a besoin de la paix de Jésus. Mais cette paix, elle a un prix. Et ce prix, il a été payé. Alors oui, pour le péché, tout a été payé par Jésus. Ça ne veut pas dire que... Il y en a qui disent, ouais, tout a été payé, c'est bon, assieds-toi sur la chaise, on attend. Non. Il y a un combat spirituel qui exige un prix à payer. Jésus, il l'a dit, Matthieu 10, 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de mon nom. Luc 14, 27, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, je ne suis pas pessimiste ce matin parce que prendre la croix et suivre Jésus, c'est une grâce. Le chrétien n'a pas la même notion de la souffrance que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Oui, nous ne sommes pas épargnés, nous avons des souffrances similaires. Par contre, les souffrances similaires que les autres ont, nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que cette paix, elle a été payée une fois pour toutes. Une fois pour toutes, elle a été payée. Romains 5, 3. Nous nous glorifions même des afflictions parce qu'elles produisent la persévérance et la victoire, l'espérance. Jacques chapitre 1, verset 3. L'épreuve produit la patience. En hébreu, le mot souffrir et le mot patience, c'est la même racine. Parce que quand tu souffres, en fait, on n'a pas de patience en Israël. Donc la patience pour nous est synonyme de souffrance. Mais la patience, c'est une vertu, mais qui s'acquiert par la souffrance. Donc il y a un prix à payer pour celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix ce matin ? Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix ce matin ? Je vais bientôt finir. Toutes nos souffrances peuvent être bénéfiques en fait parce qu'elles ont été payées à la croix. Pendant 3 jours, quand il était dans le tombeau, les disciples, ils étaient terrassés. Ils ont dû se dire, c'est fichu, il est mort. Et des fois on est comme ça, on se dit, c'est mort. Sauf que quand il est monté sur la croix, il y a tout qui était en train d'être vaincu. Le diable, il croit qu'il t'a vaincu parce que t'es terrassé, parce que tu t'es laissé aller à la dépression. Il croit qu'il t'a vaincu comme il a cru qu'il avait vaincu Jésus quand il était mort et qu'il était dans le tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et moi, je te dis que l'esprit qui a ressuscité Christ, il est là ce matin et tu peux avoir accès à cette résurrection. Si peut-être que pour toi, tout est mort, Jésus-Christ ressuscite dans ta situation. Il te relève et il te donne sa paix. Maintenant, le prix à payer, c'est de prendre sa croix et de le suivre. Est-ce que tu es prêt à prendre cette croix et de le suivre ? C'est ça la question. Il faut que tu meures à toi-même, il faut que je meure à moi-même. De plus en plus, je réalise, même si je suis dans le ministère, et plus j'avance, plus je m'aperçois que je n'ai rien compris. Plus je m'aperçois qu'il faut que moi, je diminue et que lui, grandisse. Je peux étudier les heures la parole de Dieu, avoir les meilleurs enseignements, l'hébreu, le grec, ce que vous voulez. Plus j'apprends dans la parole, plus j'apprends que je ne suis rien du tout, que lui, il est tout, qu'il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et qu'il y a un prix à payer, c'est celui de mourir à moi-même. Il faut que mon identité, elle se taise, que ma personnalité se taise pour que la gloire de Jésus rejaillisse en moi. Et pour ça, il y a un prix à payer, c'est d'accepter qu'il vienne nous changer, qu'il vienne changer nos caractères, nos façons de faire. Et peut-être que des fois, on est satisfait de nous-mêmes, mais c'est un péché parce qu'au final, lui, il est insatisfait de nos propres comportements. Et il veut nous transformer de gloire en gloire pour sa gloire. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ne nous a pas menti, il ne nous a jamais dit, je vous promets le ciel bleu, les cocotiers, une plage à Miami. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais dans ces tribulations, nous aurons la paix. C'est ça le miracle de Jésus-Christ. Alors rentre dans le tout accompli. Rentrons dans le tout accompli. Il est homme, il est Dieu, il est tout puissant. Nous savons qu'il a tout accompli. Il a accompli parfaitement la loi. Alors ce matin, remets-lui tes finances, remets-lui ta dépression, remets-lui ta famille, remets-lui ta situation soi-disant impossible, remets-lui ton combat spirituel, tes attaques spirituelles, peut-être des insomnies, peut-être des terreurs nocturnes, tout est vaincu, tes angoisses, tes phobies, tes tocs, tes craintes, elles sont vaincues au nom de Jésus. Et on va prier maintenant. On va prier, quel que soit ton besoin, quel que soit peut-être tes années de conversion, on a besoin de revenir au tout accompli de la croix. On a besoin de revenir à l'essentiel, de remettre tout au pied de la croix. Seigneur Jésus, je prie maintenant, papa, pour les malades. Je prie pour celui ou celle qui a besoin de rentrer dans le tout accompli, qui se laisse culpabiliser, qui se laisse fragiliser par l'ennemi. Je prie qu'il n'y ait aucun accès pour l'ennemi de nos âmes. Seigneur, tu nous demandes de ne pas laisser accès à l'ennemi parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Je te prie de mettre au large mon église, mon frère, ma sœur, et quelles que soient les personnes ici, je te prie de mettre au large leur famille, qui ait aucun accès, et que tous nous puissions rentrer dans le tout accompli, que nous nous souvenions de qui est Jésus. Jésus, homme, mais Jésus Dieu, Jésus qui a tout vaincu, Jésus qui est omniprésent, Jésus le plus beau nom, Jésus qui fait trembler l'enfer, Jésus qui fait trembler les puissances de ténèbres, Jésus qui fait trembler la maladie. Seigneur, je prie pour que les familles rentrent dans le tout accompli, je prie pour que des cœurs ce matin rentrent dans le tout accompli. Au nom de Jésus, merci pour Ésaïe 53. Par tes blessures, par tes meurtrissures, nous sommes sauvés, mais nous sommes guéris. Je prie pour les malades. Maintenant, au nom de Jésus, maladie quitte les corps. Dépression quitte les corps. Rhumatisme quitte les corps au nom de Jésus. Tout a été pris. Tout a été pris. Tout a été pris. Tout mal a été pris. Vaincu maintenant au nom de Jésus. Et que pour cette semaine, Seigneur, ils repartent, que nous puissions repartir remplis de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as tout accompli, nous voulons rentrer dans ton accomplissement. Merci pour ta présence. Sois béni, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse.